accent d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Grande gagnante de la crise sanitaire et de ses confinements, l'industrie du jeu vidéo. Elle a explosé ces deux dernières années. En 2021, son chiffre d'affaires au niveau mondial s'élevait ainsi à 300 milliards d'euros, soit plus que les recettes générées par le cinéma et la musique réunies. Cette industrie du jeu vidéo a commencé à décoller dans les années 70 en Amérique du Nord, puis en Europe de l'Ouest. Mais il y a un pan méconnu de cette histoire, celui qui s'est déroulé derrière le rideau de fer, en Europe de l'Est, et notamment en RDA, l'ex-Allemagne de l'Est. Julien Méchaussy est allé pour nous à la rencontre de ces pionniers, quand le jeu vidéo peut s'avérer très politique. Son reportage.
C'est la salle dédiée aux années 80. Elle n'est pas encore terminée, mais quand ce sera fini, tout sera exactement comme à l'époque, avec un Commodore 64, des Rubik's Cube, des posters de l'époque, un enregistreur à cassette, des vinyles. Il y a déjà un ordinateur de la RDA. Dans les étagères, il y a des livres et des magazines d'époque, des logiciels, comme si on était propulsé dans une chambre d'adolescent en 1983.
Avant d'arriver dans cette pièce, il a fallu se faufiler à travers des centaines d'étagères qui abritent des milliers d'appareils et de jeux devenus aujourd'hui objets de collection. René Mayer vient tout juste de faire construire sa maison-musée en banlieue de Leipzig, dans l'est du pays. Tout le sous-sol y est consacré à sa passion d'archiviste de l'informatique et des jeux vidéo. En ex-RDA, tout commence en 1977 lors du 6e comité central du SED, le Parti unique. Le régime communiste comprend alors que l'informatique et les jeux vidéo seront amenés à jouer un rôle majeur dans le futur. Obsédé par l'idée de ne pas être à la traîne par rapport à l'Ouest, il décide d'en faire la promotion auprès des jeunes de l'époque. Adolescent dans les années 80, René Mayer rembobine.
C'était bien sûr voulu d'en haut. Le régime appelait ça la microélectronique. C'était l'avenir, une technologie clé. Et les dirigeants de la RDA ont tout fait pour produire des ordinateurs, pour que les gens s'y intéressent. Il y avait des cours à l'école, même à la télévision, des émissions de radio, des livres, des magazines. Je suis même parti en colonie de vacances consacrée à l'informatique, alors qu'avant, c'était dédié aux mathématiques.
Une stratégie qui pousse même le régime à développer des supports 100% est-allemands, comme la Polyplay, une borne d'arcade avec près de 2000 jeux. Mais si la volonté politique était au rendez-vous, la technologie est-allemande était encore très loin des performances de l'Ouest. Alors, pour rattraper son retard et faire émerger de nouveaux talents, le régime crée des clubs d'informatique. Stefan Paubel en a dirigé le tout premier dans l'ancien Berlin-Est.
Nous sommes dans la rue Klosterstrasse, une adresse très connue devant la maison des jeunes talents. En son temps, l'un des plus grands et des plus célèbres centres culturels de Berlin. Un endroit où j'ai travaillé près de 13 ans. Il y avait d'autres clubs d'informatique semblables en RDA, mais le nôtre avait quelque chose de bien particulier. Il était le seul à disposer d'ordinateurs venus de l'Ouest.
Des ordinateurs qui passaient le mur de Berlin en douce et grâce au régime qui fermait les yeux. Mais avec cette technologie sont arrivés également des jeux loin de correspondre à la propagande du régime, à l'image du plus célèbre d'entre eux, Raid Over Moscow, attaque sur Moscou. Volker Strubing se rendait chaque semaine au club dirigé par Stefan Paubel, surtout pour y copier des jeux.
Je n'étais pas anticommuniste. Personne ne voulait la fin de la RDA. Nous voulions que ça change, oui, mais dans la lignée de Gorbatchev, avec une refonte du système. Je ne me suis jamais dit en jouant « Génial, on va faire péter Moscou ». D'un autre côté, c'était juste quelques pixels et nous voulions voir comment le jeu était fait. Pour nous, c'était comme de voir un film de la télé de l'Ouest. Si c'était bien, s'il y avait plein d'explosions, on s'en fichait de l'idéologie, on voulait juste s'amuser.
Après la chute du mur et l'accès aux archives de la Stasi, la police politique, Stefan Paubel a découvert que son club avait été infiltré par des informateurs. Pourtant, le club et ses membres n'ont jamais été vraiment inquiétés par la Stasi. Pour le régime, la promotion de l'informatique l'emportait sur le risque d'activité subversive.
La technologie n'était pas jugée comme politique. Et c'est pour ça que nous n'avons pas eu de problème. C'est comme la musique. Le jazz sans parole n'était pas considéré comme dangereux. Mais dès que les Noirs ont commencé à chanter, ils ont eu des problèmes. C'était pareil en RDA. Le jazz sans parole était toléré, mais le régime a mis trop longtemps à comprendre les paroles de l'informatique.
Stéphane Paubel, René Mayer, Volker Strubing, tous étaient conscients de jouir d'un très rare espace de liberté et d'appartenir à une scène qui a contribué à fissurer la dictature communiste. Après la réunification allemande, cette première génération de joueurs a profité de cette expérience pour créer des entreprises de logiciels de conseil informatique. Et 30 ans après, les yeux rivés sur la maison des jeunes talents, Stéphane Paubel ne peut s'empêcher d'exprimer sa nostalgie.
Avec le temps, lentement, je deviens moins émotionnel quand je suis ici. C'était il y a 30 ans, mais rien que de refaire le même chemin comme aujourd'hui, prendre le métro, marcher dans les mêmes rues, c'était une partie très importante de ma vie. Ce sont 12-13 ans de ma vie qui se sont joués ici. Ça marque les plus belles années de ma vie, encore aujourd'hui.
En octobre 89, un officier de la Stasi rédige un rapport où il dénonce les dangers pour le régime communiste des ordinateurs et de leur usage par les jeunes. Trop tard, le mur tombera quelques semaines après, le 9 novembre.
Et près de 35 ans plus tard, c'est une industrie qui ne connaît pas la crise. En Turquie, des entreprises se sont carrément spécialisées dans le secteur du jeu vidéo pour téléphone mobile, des start-up qui imaginent et développent des succès mondiaux avant d'être rachetées par des géants du secteur, à Nandlower.
Oui, en économie, on appelle ça une licorne, une start-up qui se retrouve valorisée à plus d'un milliard de dollars alors qu'elle n'est pas cotée en bourse, n'appartient pas à un grand groupe, mais sur laquelle des investisseurs ont misé des sommes colossales. Uber, Airbnb ou Pinterest ont été des licornes. La Turquie en compte 5 et 2 d'entre elles rayonnent sur le même marché, celui des jeux pour mobile. La société stambouliote Peak Games a été la première à rejoindre ce club très fermé en juin 2020 lorsque l'éditeur américain de jeux pour mobile et réseaux sociaux Zynga l'a racheté pour 1,8 milliard de dollars. Dream Games, elle aussi née à Istanbul et formée d'anciens de Peak Games, l'a rejointe parmi les licornes à peine un an plus tard. Peak s'était fait connaître avec ses jeux Toon Blast et Toy Blast quand Dream est derrière le succès du jeu de réflexion Royal Match. Pour les connaisseurs du secteur des jeux sur téléphone, le succès mondial de deux start-up turques ne doit rien au hasard. Ces compagnies sont d'abord portées par un marché local en plein boom. 32 millions de joueurs en Turquie en 2019, 36 millions en 2020, générant des revenus d'environ 880 millions de dollars, selon le dernier rapport annuel de l'agence Gaming in Turkey. La pandémie de Covid a accentué le phénomène, allongeant les durées de jeu de plus de 30% par rapport à 2019.
Près de 8 adultes turcs sur 10 sont adeptes de ce passe-temps. Le secteur est donc extrêmement porteur, Anne.
Oui, et il attire de nombreux jeunes talents capables d'imaginer des jeux qui plairont non seulement à leurs compatriotes, mais aussi à des utilisateurs de cultures très différentes. Sur Google Play Store, par exemple, le marché des applications mobiles Android, les jeux made in Turkey sont nettement mieux notés que la moyenne. Les succès devraient se multiplier, car les géants mondiaux du secteur scrutent avec attention les créations du marché. Turc. Le Finlandais Rovio, propriétaire du fameux Angry Birds, a acquis l'an dernier 100% des actions du Turc Ruby Games, auquel on doit notamment Hunter Assassin, le sixième jeu le plus téléchargé au monde en 2020.
À Nandlower, à Istanbul.
Let's go to a place where everything is made of blocks, where the only limit is your imagination. Let's go wherever you want to go. Climb the tallest mountains. Venture down to the darkest caves.
Avec ce boom, le jeu vidéo est aussi devenu synonyme de garantie de trouver du travail. Dans le nord de la France, à Valenciennes, se trouve la première école française du jeu vidéo. Rubika, c'est son nom. Créée en 88, cette école de jeux vidéo, d'animation et de design en fait régulièrement l'expérience. La plupart des étudiants qui terminent leur formation après 5 ans trouvent un emploi dans le secteur. Le reportage de Lise Verbeck.
Le campus de Rubika est gigantesque. 1000 étudiants dans 17 000 mètres carrés de bâtiments, avec d'immenses baies vitrées et des murs colorés d'un jaune vif. Ici, l'imagination et la créativité bouillonnent. Au détour d'un couloir, un petit groupe d'étudiants discute du jeu qu'ils ont créé sur le thème du post-apocalyptique mutant.
Le post-apocalyptique, c'est avant tout une catastrophe qui arrive et qui détruit la civilisation. Et on va suivre alors l'évolution des survivants de cette catastrophe qui vont essayer de un peu récupérer, de sauver ce qu'il reste de leur civilisation.
Et il y a quoi comme personnage par exemple ?
On a 4 archétypes de personnages, donc un combattant, une exploratrice, un ingénieur et un médecin. Où visuellement on a essayé de leur donner une identité déjà par la couleur mais aussi par la façon dont ils sont dessinés et juste la posture et ce qui dégage. On a essayé de donner vraiment une personnalité à chacun des personnages.
Dans la filière jeux vidéo, le cursus se déroule sur 5 ans après le bac et coûte au total 40 000 euros. L'école fournit tout le matériel nécessaire et 20% des étudiants sont boursiers. Stéphane André, le directeur.
On a des profils de passionnés, c'est-à-dire qui voulaient faire ça depuis très longtemps, qui connaissent très 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 bien et qui sont prêts à beaucoup travailler. On est des écoles dans lesquelles il faut beaucoup travailler. Donc, on a des gens qui avaient pas forcément des très bons résultats scolaires, on va dire. Donc, c'est pour ça que le bac est un prérequis, mais on regarde jamais les notes du bac, en fait, on s'en fout un peu. On regarde surtout la culture, à la fois la culture générale et la culture de spécialité. Et puis, dans notre concours, on a des épreuves pour savoir est-ce que tu sais raconter une histoire, est-ce que tu sais un petit peu quelques mécaniques de jeu. C'est surtout ce qu'on va regarder.
En dernière année à l'école, les étudiants sont chargés par petits groupes de créer un jeu vidéo de A à Z. Ces cinquièmes années passent donc l'essentiel de leur temps dans une grande salle, les yeux rivés sur leurs 2 écrans d'ordinateur.
Là, je suis en train d'établir un line-up, donc c'est tous les personnages du jeu, avec les bonnes couleurs, les bonnes proportions, etc.
Yuna est étudiante game artiste.
C'est des personnages un petit peu particuliers, parce que ce sont des personnages médiévaux, donc dans un univers médiéval, mais avec des éléments de punk et des éléments aussi qui rappellent des formes d'oiseaux. C'est propre à l'univers dans lequel se déroule notre jeu.
Alors c'est quoi justement le projet du jeu ?
Le projet du jeu, c'est qu'on incarne Robin, qui est une barde punk et révolutionnaire, qui va, grâce au pouvoir de la musique et globalement de l'amitié, essayer de renverser le roi et le pouvoir.
Créer, imaginer des mondes un peu fous, Yuna adore ça.
Ça raconte des histoires en fait, des histoires dans lesquelles justement le joueur n'est pas juste passif à regarder l'histoire se redérouler devant lui, mais il y prend vraiment part. Et il a, dans le meilleur des cas, un impact sur cette histoire, en fait. Faire ressentir des émotions très fortes aussi aux joueurs, ça c'est un truc qui me tient à cœur.
À quelques mètres de Yuna, Corto et son équipe travaillent plutôt sur un projet ancré dans le réel, avec un jeu centré sur l'écologie.
Vous incarnez le gestionnaire d'un parc naturel. Donc votre but, ça va être de faire en sorte d'accueillir des visiteurs dans votre parc, tout en préservant l'écosystème du mieux que vous pouvez. Donc développer une économie, mais en préservant l'écologie, et trouver cette balance qui est nécessaire dans le monde qui est le nôtre en ce moment.
Quand vous regardez toutes les grandes tendances de notre société, qu'on soit pour ou contre, elles sont dans le jeu vidéo.
Stéphane André, le directeur.
La limite entre la vie et la mort dans le jeu vidéo, ça fait bien longtemps qu'elle est dépassée. Tout ce qui est monnaie complémentaire, c'est-à-dire quelque chose qui soit autre que l'argent, dans le jeu vidéo, ça a été inventé il y a très longtemps. Vous avez ce que vous mettiez dans votre paquet, en fait. Alors, évidemment, vous aviez des armes, vous aviez de la nourriture, vous aviez que vous pouviez échanger. Donc c'est comme une monnaie. Hein. Tout ce qui est les problématiques de genre, par exemple, sont traitées depuis très longtemps dans le jeu vidéo, depuis 5-6 ans déjà. Cette problématique de genre où on disait on est mi-homme, mi-femme, on choisit un peu ce qu'on vient, ça existe dans le jeu vidéo. Et quand vous prenez une plateforme comme Steam, qui est la plateforme qui permet un peu du jeu indépendant, qui permet de sortir, bah vous avez une créativité extraordinaire. Parce que dans le jeu vidéo, il n'y a pas de limite. La limite, c'est notre imaginaire. Et on sait bien que l'imaginaire de l'homme, au sens de l'humain, en fait, bah, il n'y en a pas. Et c'est ça qui est génial.
L'industrie du jeu vidéo se porte très bien. La pandémie et les différents confinements ont eu un effet boost et les studios recrutent en permanence. D'ailleurs, ces professionnels viennent régulièrement rencontrer les étudiants de Rubika.
Ils sont assez friands de voir ce qui se passe ici, de comment c'est fait, surtout parce qu'il y a beaucoup de fraîcheur en fait, dans la façon dont les étudiants font les choses.
Franck Letiec, directeur pédagogique de la filière jeux vidéo.
Une tendance qui émerge de la part des recruteurs, c'est aussi la propension à vouloir recruter des équipes l'équipe au complet. C'est d'avoir eu la chance de venir ici sur le campus, de voir qu'il y avait un groupe de 6-8 étudiants qui travaillent bien ensemble, qui ont envie de continuer. Et quand on sait qu'ils ont expérimenté pendant un an une production dans un cadre scolaire qui est quand même assez exigeant, c'est du pain béni pour les entreprises que d'avoir la possibilité de recruter des équipes au complet. Donc c'est quelque chose qui se fait de plus en plus également.
95% des diplômés de l'école trouvent du travail dans leur filière. La moitié en France, qui compte de gros studios comme Ubisoft, et l'autre moitié à l'étranger.
Avec nous en studio, Alice Rougeat, bonjour.
Bonjour.
Comme tous les jeudis, vous nous parlez des jeunesses européennes. Et cette semaine, dans votre Europe, Alice, vous vous penchez sur les geeks, ces accros aux jeux vidéo. Une partie d'entre eux, on l'a entendu, sont tellement passionnés qu'ils en font leur métier. Mais sont-ils nombreux, ces jeunes joueurs et joueuses en Europe ?
Eh bien oui, très nombreux. Selon une dernière étude, sur 10 Européens âgés de 13 à 39 ans, 9 sont au moins des joueurs occasionnels. Et plus on est jeune, plus on pratique. En France, chez les 10-14 ans, il y a 98% de joueurs. Alors moi, au milieu de tout ça, je suis un peu une ovni avec mes carnets de sudoku.
On a l'image du geek devant une grande console, mais comment jouent les jeunes aujourd'hui ?
Cette image du geek reste quand même très juste. Si le smartphone arrive en première place des interfaces sur lesquelles on joue, c'est parce qu'il séduit un public de joueurs plus large. Même les aficionados des consoles majoritaires chez les 15-25 ans avouent aussi prendre leur téléphone quand ils s'ennuient à l'école ou dans les transports. Ils se réservent en revanche plus d'une heure d'amusement avec leur Xbox ou PlayStation. Et la pratique ne cesse d'augmenter depuis 2020. Année d'ailleurs où la Pologne devient le premier pays d'Europe à inscrire un jeu vidéo dans la liste des lectures obligatoires au lycée. Pour jouer, il faut incarner un civil survivant à la guerre des Balkans. Les élèves apprennent ainsi l'histoire, la sociologie et même l'éthique. Mais pour revenir au fait que c'est un secteur très porteur, j'ai fait un petit décompte des jeux vidéo à sortir pour l'année 2022. Il y en a plus d'une centaine. D'ailleurs, le continent peut se targuer d'avoir l'un des studios les plus célèbres au monde. Battlefield ou Star Wars, ces monuments ont été développés par la DICE en Suède.
Vous disiez que la pratique a augmenté depuis 2020. Est-ce que la pandémie a incité les jeunes à se mettre aux jeux vidéo ?
Eh bien, pas vraiment, mais disons que pendant le premier confinement, tous les jeunes qui jouaient déjà y ont passé deux fois plus de temps.
Résultat, ils ont dû beaucoup s'isoler pendant cette période.
On pourrait le croire, mais non. Selon une étude française du syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs, 61% des joueurs et joueuses discrètent du lien social à travers leur pratique. Près d'un tiers racontent même s'être fait des amis et sentir appartenir à une communauté. Ils ont beau être seuls derrière leurs écrans, ils partagent une culture, des références informatiques mais aussi littéraires et populaires. Ils jouent en réseau, échangent pendant les parties et participent même à des événements virtuels. À ce propos, vous avez dû en entendre parler. Une centaine de streamers français, c'est comme ça qu'on appelle les influenceurs des jeux vidéo, se réunissent chaque année depuis 2017 pour un événement caritatif, le Z-Event. Ils jouent pendant plus d'un week-end et leurs fans font des dons, un peu comme le Téléthon. 10 millions d'euros ont été récoltés pour Action contre la faim en 2021.
Alors, tout ça avait lieu en grande partie sur Twitch, une plateforme auparavant utilisée uniquement par les joueurs, mais qui a fait des émules.
En plus de faire le buzz, les gamers créent évidemment des tendances. Vous avez raison, Léa Lisa. Twitch, c'est une plateforme de stream. Ces captations vidéo transmises en direct où les joueurs sont aussi animateurs. Eh bien, le format a séduit des médias et même des hommes politiques attirés par cet immense public. En France, plusieurs ministres ont fait des apparitions sur la plateforme.
Le geek n'est définitivement pas ce jeune déconnecté du monde réel.
C'est clair. Geek, autrefois, on l'employait pour désigner celui ou celle qui est un peu bizarre, qui se passionne pour l'informatique et qui est très obsessionnel. Mais aujourd'hui, moins chargé négativement, le mot est entré dans le langage courant. D'ailleurs, balayons le dernier préjugé. Jouer n'empêche pas de réussir ses études. 85% des joueurs d'Allemagne, du Royaume-Uni et de France ont au moins un diplôme. Et une fois devenus adultes, il y a 30% de joueurs parmi les CSP+. Ces millions de gamers, qui ont tendance à se revendiquer contestataires, restent tout de même de grands libéraux parce qu'ils consomment massivement. Les Allemands disent dépenser 34% de leur budget annuel dans les jeux vidéo. Avec des studios renommés, des ingénieurs informatiques formés dans des écoles d'excellence, l'industrie européenne des jeux vidéo représente 17 milliards d'euros, un secteur du numérique qui porte.
Attention tout de même, jouer en ligne, streamer ou même scroller consomme énormément d'énergie et participe à la pollution numérique. Merci Alice Rougeat, à bientôt. Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr ou via notre podcast sur vos plateformes d'écoute. À demain.